Les voix de l'éveil. Sur Radio FM Plus 91 FM.
Chers auditeurs et auditrices de Radio FM+, bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale Samhain, plus communément appelée Halloween. Nous allons au cours de cette émission essayer, tout du moins, de relever le mystère des origines de cette fête païenne bercée entre mythe et réalité. Tout d'abord, le mot Samhain est gaélique. Il est issu du vieil irlandais Samhain. Beaucoup le considèrent comme composé des racines Sam, qui signifie « été », et « fun », qui signifie « fin ». Bien que séduisante, plusieurs raisons font que cette étymologie reste controversée. D'abord, le génitif des langues gaéliques fonctionne plus ou moins comme celui des langues latines. Le complément du nom se place après le nom. Samhain voudrait donc dire « été de la fin », et non pas « fin de l'été ». D'autre part, pour les Gaëls, l'été se terminait au mois d'août, avec les fêtes de Loug, qui donnait d'ailleurs son nom au mois, donc de novembre, irlandais Lunasa. Samhain est la première des quatre grandes fêtes religieuses de l'année celtique, fêtée aux environs de notre 1er novembre. C'est aussi le nom de la fête qui correspond à peu près au Halloween anglo-saxon, et donc au mois de novembre dans les langues gaéliques. Elle vient après Lunasa est avant Imbolc et marque le début de la période sombre, car pour les Gaëls, comme pour les anciens Celtes et leurs ancêtres indo-européens, l'année était composée de deux saisons fondamentales, une saison sombre et une saison claire. C'est une fête donc de transition, le passage d'une année à l'autre, et d'ouverture aussi vers l'autre monde, celui des dieux et des manes, c'est-à-dire les âmes vivant dans l'au-delà. Elle est mentionnée dans de nombreux récits épiques irlandais car, par définition, elle est propice aux événements magiques et mythiques. Son importance chez les Celtes est incontestable, puisqu'on la retrouve en Gaule sous le nom Trinox Samhunii, qui donc signifie les trois nuits de Samhunii, durant le mois de Samhonios, approximativement donc le mois de novembre, sur le calendrier de Coligny ou le calendrier gaulois. Quoi qu'il en soit, il ne fait aucun doute que le cogna, c'est-à-dire le lien de sang, Samhain, donne son nom au mois de novembre en irlandais. La fête elle-même dure en fait une semaine pleine, trois jours avant la pleine lune de novembre, le jour de la pleine lune lui-même, puis trois jours après. Pour les Celtes, cette période est entre parenthèses dans l'année. C'est une parenthèse dans l'année. Elle n'appartient ni à celle qui s'achève, ni à celle qui va commencer. C'est une durée autonome, hors du temps. Un intervalle de non-temps. C'est le passage de la saison claire à la saison sombre, qui marque une rupture dans la vie quotidienne. La fin des combats, par exemple pour les guerriers, ou encore la fin des travaux agraires pour les agriculteurs et les éleveurs. Il ne fait aucun doute que des liens culturels existent entre Samhain et Halloween. Mais il est difficile de démêler ce qu'on sait réellement de l'évolution de l'ancienne fête païenne, de la fiction, tant les mystifications néo-païennes autour de Samhain sont nombreuses et détaillées. La plus connue est probablement celle de la mère d'Oscar Wilde, Lady Jane Francesca Wilde, qui au 19e siècle publie Enchanted Legends, Mystic Charms and Superstition of Ireland, une œuvre qui représentait la mythologie de, entre guillemets, la vieille race irlandaise, y compris de nombreux rites et de légendes concernant la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Ce traité est encore parfois cité en tant que référence. Alors, y a-t-il une amalgame entre Samhain et Halloween ? À la fin du 19e siècle, l'amalgame de Samhain et de Halloween sert le sentiment national irlandais. Dans les années 1890, le Conradh na Gaeltacht, dont l'objectif est de promouvoir la langue des Gaëls, remet la mythologie celtique au goût du jour. Yeats, par exemple, choisit le nom Samhain pour le nouveau magazine de l'Irish National Theatre Society, car selon lui, c'est l'ancien nom du début de l'hiver. Et il dit « Et parce que cette année, nos pièces se déroulent en octobre et que dans sa forme présente, notre théâtre touche à sa fin. » En 1910, le journal du Sinn Féin, dirigé par Arthur Griffith, emboîte le pas à Lady Wilde en fusionnant délibérément Samhain et Halloween. Un an plus tard, on célèbre Samhain au siège du Conradh surnommé Sinn Féin House, en raison de sa proximité avec le mouvement nationaliste irlandais. À cette occasion, sont relancés d'anciens jeux et coutumes, traditions provenant nécessairement d'Halloween, puisque personne ne connaît vraiment les coutumes des premiers Celtes. De même, en 1912, le directeur de l'école Saint-Enda, Patrick Pearce, prononce un discours à l'occasion de Samhain. Ainsi, l'amalgame entre Samhain et Halloween devient une norme approximative du côté des nationalistes irlandais. Des origines celtes, en tout cas, contestables. Aussi séduisante soit cette version de l'histoire, elle révèle aussi malheureusement plus du fantasme que de la réalité historique, du moins en partie. Jean-Louis Bruno, archéologue spécialiste de la civilisation gauloise, dit « Samhain est bien une fête irlandaise, mais nous ne disposons d'aucune source qui indique que c'était une tradition présente chez les Celtes historiques, et donc chez les Gaulois. Car les proto-Celtes sont bien les Gaulois, un peuple réparti sur une vaste portion de l'Europe, allant du sud de la France jusqu'au Rhin, en passant par le nord de l'Italie, la Suisse, l'Autriche, une partie de l'Allemagne et de la Hollande, ainsi que de la Belgique. » Il poursuit en disant que les premières mentions de Samhain que l'on trouve dans la littérature irlandaise précoce datent tout au plus du haut Moyen-Âge, soit bien loin du temps où le paganisme et ses rites magiques dominaient sur le vieux continent. Ainsi, si Samhain repose sans doute sur des fêtes populaires qui ont bel et bien existé et remontent à la nuit des temps, dire qu'elle est celtique n'a pas de sens, affirme notre archéologue. Alors, est-ce l'invention d'une tradition ? D'où viennent ces prétendues origines celtiques ? À la fin des années 1970, l'historien britannique Eric Hobsbawm éclaire d'un nouveau jour l'histoire des traditions et des lieux de mémoire du monde entier. Ses travaux le conduisent à affirmer que des pans entiers de l'histoire auraient été façonnés au XVIIe et XVIIIe siècle, surtout au Royaume-Uni, pour répondre à des problématiques politiques et sociétales. Nombre de traditions irlando-écossaises, dont Samhain, auraient été ainsi remodelées par les historiens de la couronne d'Angleterre dans le but de satisfaire un besoin d'identité culturelle. Jean-Louis Bruno, notre archéologue, ajoute « Les Irlandais étaient un peuple délaissé, soumis à des famines successives. Attribuer à l'une de leurs fêtes populaires des racines celtes et antiques était une manière de servir un sentiment national. Cette fête irlandaise était chrétienne, de la veillée de la Toussaint. » Donc, « The Evening of All Saints' Day » qui devint par contraction successive All Hallows Eve, et enfin Halloween. Pour en revenir à Lady Wilde, au siècle suivant, les envolées donc littéraires d'auteurs romantiques, comme on l'a nommé précédemment, achèveront de fusionner l'irlandaise All Hallows Eve à Samhain. On doit donc la mystification la plus efficace donc à Lady Jane Francesca Wilde, donc poétesse et toujours mère d'Oscar, qui, dans son ouvrage de 1887, donc Ancient Legends, Mystic Charms and Superstition of Ireland, dépeint une nuit du 31 octobre au 1er novembre empreinte de rites ancestraux. Bref, n'en déplaise à Lady Jane Wilde, les meilleures sources dont nous disposons sur les origines de la célébration de la fête de Samhain sont à attribuer aux moines irlandais du Moyen-Âge qui consignent et surtout christianisent la mythologie gaélique. On y apprend donc que Samhain était l'une de ces quatre fêtes de l'année, qu'elle marquait bien le début de la saison sombre, et donc à la fin de la saison claire, selon l'ancien calendrier celtique, et qu'elle ne voulait en cela, et qu'elle se voulait, pardon, en cela, une fête de transition. Ses motifs, en revanche, restent flous. Peut-être y votait-on des lois, des nouvelles lois, y prenait-on des décisions politiques et juridiques, ou y célébrait-on des mariages. Il serait tout de même bien triste que les croyances qui portent cette tradition ne soient tournées qu'autour de débats politico-religieux. Les incertaines origines de Samhain ne fait en tout cas qu'appuyer le mysticisme qui règne sur cette fête. You never succeed. Anything, it's not good enough. I need perfection. How can you achieve the things you believe? Your aim is too high. Oh, it's hopeless, you're just disappoint. So start accepting that feelings you
for the lame late break, then I fade lane of another pie, AZ case, pioneer dodging wars, trying to get my main grit. Yeah, trying to get my main grit. Set here, track to rate range. Yeah, I ranked it. Rate lanes to a lane set, yeah. Keep this snap, step over back, yeah, no enemy beat. I will deliver that. Travis gone back with dumb flows to expose your cure with that. Got better flows and load up packs. Never to prove this, my boy, leave a man split, just the jeans back. A boy, no, I can't stand your noise. So I'm back with a fucking poison.
My conscience has been.
Et les citrouilles, dans tout ça? Là encore, il est question de traditions difficiles à dater. Mais l'on trouve des traces d'une fameuse légende dont provient sans doute la tradition de la citrouille dès 1750 en Irlande et en Écosse. C'est celle de Jack O'Lantern, ou Jack à la lanterne. Ivrogne et mesquin, ce maréchal ferrant prénommé Jack ne parvint jamais à entrer au paradis, et à cause de sa vie de débauche. En tout cas, à cause de sa vie de débauche. Mais l'enfer lui fut aussi refusé après plusieurs mésaventures avec le diable de son vivant. Pas de chance. Ainsi, depuis le jour de sa mort, 31 octobre, il fut condamné à errer dans le noir avec pour seul repère un navet creusé en guise de lanterne. Dès lors, la coutume voulait que l'on creuse ce légume et que l'on y place une bougie le soir d'Halloween. Lorsque les Irlandais et les Écossais émigrèrent de l'autre côté de l'Atlantique, sur un continent où la famine allait peut-être enfin cesser de les poursuivre, ils troqueront les navets contre des citrouilles, plus simples à creuser et plus courantes. Ce n'est en revanche que dans les années 1930, aux États-Unis, que les enfants ont pris l'habitude d'aller le soir de maison en maison, frapper aux portes et réclamer des friandises. Alors, eh bien, il y a aussi la fête de la Toussaint, en Bretagne, un Halloween à la française. Donc, en Bretagne, on parle encore une langue celtique, où l'ancien calendrier était directement inspiré du calendrier bipartite celte, la fête de la Toussaint semble quand même intimement liée à Samhain. Fañch Postic, ethnologue spécialiste des mondes bretons et celtiques et membre associé du Centre de recherche bretonne et celtique, nous révèle qu'en Bretagne, bien des croyances sont proches de celles que l'on trouve en Irlande, notamment celles en l'existence de l'autre monde nommé l'Anaon. Mais c'est surtout dans la nuit du 1er au 2 novembre, influence probable du christianisme, que s'en trouvent ces portes. Des traces de pratiques similaires à l'Halloween irlandais où on en trouve en Bretagne dès le XVIIe siècle. Toute une série de croyances était en rapport avec la présence des défunts dehors cette nuit-là. Par exemple, il ne fallait pas balayer la maison de peur de les pousser dehors, ne pas sortir les animaux qui pourraient les écraser. D'une manière générale, il convenait de ne pas s'attarder dehors au cours de la nuit du 1er au 2 novembre afin d'éviter les mauvaises rencontres, car dans l'Anaon, comme dans l'au-delà de Samhain, se trouve également toute une série d'êtres fantastiques plus ou moins recommandables. On quêtait en chanson et l'on plaçait aussi des betteraves éclairées par des bougies devant les maisons pour effrayer les morts. Voilà donc une preuve de plus qu'Halloween est finalement bien plus qu'un déferlement de décorations et d'objets orange et noir venus d'outre-Atlantique. Alors vous en conviendrez, chacun tire un peu la couette de son côté, nous sommes bercés entre mythes et réalités festives. En tout cas, que ce soit une tradition dont nous ignorons quelque peu les rites, ou de simples croyances, il n'en reste pas moins persuasif que le soir du 31 octobre, les énergies sont particulières. Et j'aime à penser que comme tout passage, qu'il soit d'une saison à une autre, d'une période à une autre, c'est un portail qu'il nous faut passer. Et je pense intimement que les croyances ou rites qui ont été dédiés ont laissé une trace indéniable de leur passage dans ce bas monde. Il est intéressant de se pencher en ce jour particulier sur ces jeux de cartes divinatoires, sur ces rituels ou encore sur le nettoyage d'un lieu. Et si toutefois vous n'êtes pas branché ésotérisme, il vous reste encore quelques films d'épouvante à regarder avec un paquet de bonbons entre les mains. En tout cas, quels que soient vos projets pour ce dimanche 31 octobre, je vous souhaite qu'il soit un moment horriblement agréable. Allez, moi je retourne à mon chaudron et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!
Les voix de l'éveil. Sur Radio FM+, 91 FM.